Jacques chapitre 1, on va regarder quelques versets, les versets 2, 3 et 4, Jacques 1, 2, 3 et 4, et le verset 12 qui a un lien avec ces trois versets, et je vais vous lire cela. Écoutez, j'ai regardé ce passage dans plusieurs traductions de la Bible et elles sont toutes différentes à cause d'un mot qu'on va, on va voir. Il y a donc, si vous lisez dans un texte, vous allez peut-être pas retrouver le texte que moi je vais vous lire. Et puis on regardera peut-être plus tard, mais on regardera en tout cas en détail le pourquoi de ces différences de traduction. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Alors merci Julien de me suivre. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. C'est Jacques chapitre 1, les versets 2 à 4, puis le verset 12. Alors, une quinzaine ou une vingtaine d'années après l'ascension de Jésus, après qu'il est mort, ressuscité et monté au ciel, Jacques dirigeait l'église de Jérusalem. Il a écrit cette lettre aux chrétiens, principalement juifs. À l'époque, il y a eu des conflits dans cette église, des clans. Il y avait des différences sociales, des riches, des pauvres, etc. Il y avait des courants religieux différents dans l'Église. Et donc, Jacques, il démarre cette lettre, donc c'est un peu curieux la façon dont il démarre, mais il démarre cette lettre en parlant des épreuves. Alors, à première vue, quand on lit ce texte qu'on vient de voir et de lire, c'est quand même une drôle de déclaration de part de Jacques qu'on trouve tout au début du texte. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. C'est quand même, c'est pas normal. Je veux dire, considérez-vous heureux si vous passez par des épreuves. Personne ne souhaite délibérément passer par des difficultés, n'est-ce pas? Ça peut paraître un peu insensé de parler comme ça. Et quand les épreuves arrivent, même dans notre vie, on peut se dire parfois que Dieu me punit. Ou bien on peut se dire aussi que je suis maudit d'une manière ou d'une autre. On a beaucoup de réactions quand les épreuves arrivent dans ma vie. Mais Jacques dit, effectivement, considérez-vous comme heureux lorsque vous passez par des épreuves. Et donc, il commence avec ce mot « considérer ». « Considérez-vous heureux », c'est un impératif. Il nous demande de changer notre approche vis-à-vis nos difficultés dans la vie. De voir plus loin que la douleur du présent, parce que les épreuves, forcément, la nature d'une épreuve, c'est que ça fait mal quelque part. Mais il demande de regarder plus loin que la douleur du moment et de voir plus loin, de considérer l'issue ultime de ces épreuves et la raison de ces épreuves. Il demande un changement de lunettes de notre part. La première réaction aux épreuves, c'est souvent négative. Il nous demande de changer de lunettes et de regarder des choses d'une autre perspective. Ces choses que normalement on dit, c'est mauvais. Alors, changement d'image, c'est déjà là. Les diverses épreuves donc, dont Jacques parle dans ce texte, il dit, considérez un sujet de joie, les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Alors, je ne sais pas si vous voulez citer tous les types d'épreuves qu'on peut rencontrer, mais j'imagine qu'on peut penser à beaucoup d'épreuves différentes. Mais quelles étaient les épreuves dont parlait Jacques? Jacques était un juif, vivant au 1er siècle. C'était déjà un familier du problème de la souffrance imméritée sous l'occupation romaine. Donc les Juifs, à son époque, étaient dans une position nationale, politique, pas très sympathique pour eux. Ça finit par des révoltes, etc. Donc il y a déjà ce problème-là. Puis, lui et les autres chrétiens, donc après la vie de Jésus, après que Jésus a quitté cette terre, ceux qui sont attachés à Jésus, à son enseignement, étaient persécutés. C'était tout nouveau. Et Jacques était un juif. Il subissait la persécution. Donc dans cette lettre, les épreuves parlent de la souffrance et la persécution qui combattaient eux à leur époque, en partie. Mais quand Jacques dit qu'il écrit au sujet de diverses épreuves, et puis ça, ce mot, on a aussi cette idée de tentation qui se retrouve aussi dans ce chapitre, épreuve, tentation. Quand Jacques écrit au sujet de diverses épreuves, cela démontre qu'il parle de toutes sortes de difficultés que tout chrétien rencontre dans la vie. Les difficultés dues au péché, comme par exemple la maladie, ou bien des difficultés financières qui peuvent arriver de notre péché, de notre manière de gérer l'argent. Ces choses sont citées dans sa lettre ensemble avec la persécution et d'autres formes de difficultés qui viennent quand on vit notre foi dans un monde qui s'y oppose. D'accord ? Dans le Nouveau Testament, le mot en grec qui est traduit par épreuve, parasmos, a bien deux sens principaux. Les deux sens se réfèrent aux afflictions qui viennent de l'extérieur, comme la persécution, et aussi l'incitation intérieure à pécher, notre propre tendance à se faire du mal, et les difficultés qui résultent de ce péché. Donc en effet, Jacques nous parle de l'espèce de pot pourri, si vous voulez, d'épreuves, quand il parle de diverses épreuves dans ce chapitre. Les deux sortes sont applicables dans ces versets, les épreuves qu'on subit de l'extérieur ou bien celles qui viennent de notre propre comportement. Alors, il y a mon père, quand il était vivant, bien sûr qu'il ne peut pas le faire maintenant, il m'envoyait souvent des articles de journal, de magazine, il m'envoyait des trucs à lire. Et il m'a envoyé une fois une image de glaneur de Millet, je pense. Et puis avec cette image, il y avait ce poème qui était écrit par une dame anglaise, je pense, et c'est Sandrine qui a aidé avec la traduction de ce poème. Le titre est « Ce que Dieu a promis ». Dieu n'a pas promis, donc elle commence avec ce qu'il n'a pas promis. Dieu n'a pas promis un ciel toujours bleu, des chemins bordés de fleurs tout au long de la vie. Dieu n'a pas promis le soleil sans la pluie, la joie sans tristesse, la paix sans douleur. Dieu n'a pas promis que nous ne connaîtrons pas le labeur et la tentation, des troubles, du malheur. Il ne nous a pas dit que nous ne porterons pas des fardeaux, des tas de soucis. Dieu n'a pas promis de routes larges, aplanies, des voyages faciles, sans besoin de guide. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de montagnes abruptes et rocailleuses, ni de fleuves profonds et hasardeux. Mais Dieu a promis la force pour chaque jour, le repos après l'effort, la lumière pour le sentier, la grâce pour les épreuves, de l'aide d'en haut, sa compassion sans faille, son amour qui ne meurt jamais. Ce poème nous montre, si vous êtes un humain sur cette planète aujourd'hui, il va avoir des épreuves, n'est-ce pas? C'est inévitable. Alors, comment affronter toutes ces épreuves dont on nous faisons face dans la vie? Donc, on va relire notre texte qui dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. » Et on va revenir à l'écran avec le mot qui se prononce « hypomonée ». Et c'est en fait ce mot-là, en grec, en fait, la première lecture de ce mot est la raison pour laquelle je me suis penché sur cette question aujourd'hui. C'est que je cherchais quelque chose à souhaiter à mes enfants au 1er janvier, donc cette nouvelle année, en prononçant des vœux, etc., et puis en lisant la parole. Je suis tombé sur ce verset 12 de Jacques. Et en anglais, le mot, donc pour les anglophones qui sont dans la salle ou qui comprennent l'anglais, le mot en anglais sur lequel je suis trouvé, c'est « steadfast ». Et ce mot « steadfast » en anglais, c'est « hypomonée » en grec. Et en français, ce mot est traduit de beaucoup de manières différentes. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous regardez ce texte de Jacques dans toutes les différentes versions françaises de la Bible, vous avez tout un tas de choix différents pour essayer de reproduire le sens de ce mot en grec qui est hypomoné. Et donc, quand je prêche ce message ce matin, c'est aussi mon souhait pour vous que vous allez expérimenter cette hypomoné dans votre vie. Alors, qu'est-ce que c'est? Hypomoné, c'est pas un nouveau virus. C'est pas ni un médicament contre un quelconque maladie. Mais c'est effectivement une sorte de dose de rappel spirituel qui est très bon pour tout aspect de notre santé physique, spirituelle, tout. Nous sommes des hommes entiers, tout va ensemble. Et ce mot, comme j'ai dit, c'est intraduisible en un seul mot en français. Hypomoné veut dire détermination, constance, fermeté, ténacité, persévérance, résolution d'être inébranlable. Et j'ai pensé dans la partie louange et de sentir l'émotion dans notre louange ce matin. J'ai pensé aussi aux équipes de sport où tu vois parfois des hommes ou des femmes qui ont vraiment la rage. Ils ont vraiment l'envie de faire quelque chose. Et je pense que ce mot, hypomoné, a aussi une partie de cette rage que nous devons avoir en nous, cette détermination, cette constance, fermeté, ténacité, persévérance, résolution dans les épreuves. Alors, je vais pas comparer toutes les traductions. En fait, j'ai la liste de 7 ou 8 Bibles différentes et tous les mots se retrouvent là-dedans. Parfois, on voit patience, qui n'est peut-être pas assez fort. Pas comme fermeté, ténacité, etc. Mais pour vous donner encore un peu plus de profondeur sur ce mot hypomoné, qu'est-ce que c'est? C'est l'attitude avec laquelle les chrétiens sont censés répondre aux problèmes. L'endurance est l'attitude que la foi, l'espoir et l'amour apportent à des situations qui nous semblent impossibles. Quand on voit un truc devant nous qui est dur, quelle est notre réponse? Quand on a une épreuve qui tombe sur nous, qu'on n'attendait pas du tout, de ce truc lourd, quelle doit être notre réponse à cela? C'est hypomoné. Hypomoné, ce n'est pas une soumission passive et docile aux circonstances. Ça, c'est du fatalisme. mais une réponse forte, active, presque un défi. C'est les lunettes, c'est ces lunettes-là que Jacques nous demande de mettre quand on est face aux épreuves. Ça doit être une réponse forte, active, presque un défi, où les réalités de la vie chrétienne sont prouvées dans la pratique. Et j'explique cela. Par exemple, face à une rude épreuve, quand je me confie à Dieu et je patiente, endurant la difficulté en comptant sur le Seigneur, sans perdre l'espoir et sachant que je fais ce que Dieu proscrit, là, je peux avoir la paix du cœur, une paix qui dépasse toute compréhension, et ainsi expérimenter une des réalités de la vie chrétienne. Vous m'avez suivi dans cette pensée ? Hypomonée est une réponse forte et active face aux épreuves de la vie. Alors, maintenant, on va toucher aux raisons. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme... On revient sur hypomonée, puis je te dirai. On va revenir maintenant aux raisons des épreuves. Bon, une raison générale, c'est que nous vivons dans un monde qui est déchu et a subi les conséquences du péché, qui produit tout ce que le négatif que le péché produit. Et on sait que dans la vie, on va rencontrer des épreuves. Et nous savons en tant que chrétiens que nous sommes censés aborder les problèmes avec beaucoup d'hypomonée dans les poches. D'accord? Je viens de vous dire ça. Mais on peut et on doit poser cette question. Quelle est la raison? Quelle raison pour ces épreuves que je rencontre? Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Si je vous demandais, je vais pas le faire, mais il y a beaucoup d'exemples de personnes qui passent des épreuves dans leur vie, n'est-ce pas? On a chanté, le premier chant qu'on a chanté, c'est « Béni soit le Seigneur ». C'est Job. C'est la vie d'une personne éprouvée à l'extrême. L'aboutissement ultime de la persévérance dans l'épreuve et que les croyants deviennent mûrs, complets, et qui ne manquent rien à leur foi. C'est ce que dit le texte. Dieu permet des épreuves dans notre vie parce que les difficultés auxquelles nous faisons face nous permettent de grandir dans notre maturité. Nous pouvons les regarder avec détermination, fermeté et paix en sachant que si on choisit de les traverser d'une manière qui plaise à Dieu, cela nous permet de faire mûrir notre foi. Il vient à l'esprit juste à ce moment l'idée de l'amour, du mariage aujourd'hui, et on peut porter une critique sur la facilité avec laquelle des personnes abandonnent un mariage parce que c'est trop dur ou je l'aime plus, il y a l'émotion qui dit j'aime plus cette personne. C'est un contre-exemple de quelque chose qu'on ne laisse pas approfondir pour arriver à une maturité. On abandonne. Et quand on quitte comme ça, on n'a pas la possibilité d'approfondir la chose jusqu'à sa maturité, son plus profond essence. Dieu permet... qui a la difficulté dans notre vie. Dieu permet la difficulté. Et ceci dit, la souffrance des croyants est toujours sous le contrôle providentiel d'un Dieu qui ne souhaite pas, qui ne souhaite que le meilleur pour son peuple. Dieu ne souhaite que le meilleur pour son peuple. Il est important de noter que Dieu est bon. Il est toujours bon, ça c'est sa nature, c'est son caractère. Il ne peut pas être que bon. Il ne fera jamais quelque chose de mal. Et donc l'épreuve est permise dans notre vie et elle est pour notre bien. Et Jacques part de cela plus loin dans ce chapitre, dans le verset 13, si vous voulez regarder plus loin. Et sachant que Dieu est celui qui permet et qui contrôle les épreuves, résistons aux épreuves en nous rappelant qu'il ne cherche jamais notre chute. Dieu est pour nous, il ne veut pas qu'on chute. Au contraire, Dieu est la source de toute grâce excellente et tout don parfait, descendant d'en haut. C'est encore Jacques qui nous rappelle ces choses. Alors, une foi ferme face aux difficultés fait honneur à Dieu, car elle manifeste notre confiance et notre amour pour Dieu. Donc, les épreuves peuvent être vues comme une chose bénéfique, un moyen que Dieu utilise pour nous rendre plus forts, plus unis à lui, plus entiers dans notre foi. Les épreuves peuvent être même vues comme des dons parfaits. Jacques parle de ces dons parfaits qui viennent de Dieu, et on pense souvent aux bonnes choses que Dieu nous donne. Mais les épreuves qui nous rendent matures, solides, stables dans notre foi sont également des dons qui viennent de la part de, qui viennent de part de Dieu. Et donc, j'ai perdu ma place. Et je vais le retrouver. Ah oui, je suis là. Excusez-moi. Voilà. Donc, les épreuves peuvent être même vues comme des dons parfaits, des cadeaux qui viennent de Dieu, de le Père des Lumières, qu'elle nous aide à grandir dans notre maturité. Et donc, maintenant la joie. Raison pour la joie. Parce qu'il commence tout ce texte en disant « Considérez vos épreuves comme un sujet de joie, et même de joie complète. » Tournure très curieuse. La raison de la joie. Qu'importe le type d'épreuves auxquelles nous faisons face, elles peuvent être regardées comme une occasion de se réjouir. Mais comment ? Comment être heureux quand on rencontre des difficultés ? La souffrance est un moyen par lequel notre foi, testée dans le feu de l'adversité, notre foi peut être purifiée par cela. Purifiée de notre crasse. Nous vivons dans cette tension de personnes sur cette terre, personnes avec une nature pécheresse, mais qui tendent vers une sainteté. Être comme Dieu, être comme Jésus, être pur. Donc, nous vivons dans cette tension, et dans cette tension, nous, même si notre salut déjà acquis, déjà dans les lieux célestes, tout bien spirituel, comme tu as cité dans ta prière, c'est une réalité. L'autre côté de la pièce de cette réalité, c'est que nous sommes toujours dans ce corps de mort. Et nous péchons toujours, donc on vit cette tension, et donc Dieu, la souffrance, c'est un des moyens que Dieu utilise pour nous purifier de notre crasse, de nos doutes, de nos égarements. Et ainsi, en faisant cela, notre foi est fortifiée. Donc l'idée n'est pas que les épreuves déterminent si une personne à la foi ou pas, mais que les épreuves fortifient la foi qui est déjà présente en la personne. De savoir que nous sommes fortifiés dans la foi à travers les épreuves est une raison d'être dans la joie. de savoir que nous sommes fortifiés dans la foi à travers les épreuves est une raison d'être dans la joie. Ça, c'est des lunettes peut-être difficiles à mettre quand on est au milieu de la chose. Les croyants sont incités à répondre aux épreuves avec joie parce qu'elles elles ont pour effet de produire en nous une foi plus profonde, plus forte, une foi plus sûre. La raison de la joie est que si on fait face aux épreuves avec hypomonée, elles nous font du bien. Elles nous rendent plus comme Jésus. Savoir que nous devenons des enfants de Dieu plus accomplis, plus complètes lorsque nous affrontons l'épreuve avec endurance est encore une raison d'être dans la joie. Savoir que nous devenons des enfants de Dieu plus accomplis, plus complets. Est-ce qu'on recherche vraiment cela? Si je me retourne vers la rage des sportifs qui veulent quelque chose, qui ont cette détermination, est-ce que c'est aussi notre forte envie de devenir des hommes et des femmes mûrs dans la foi? Ou est-ce que nous sommes satisfaits avec la grâce que Dieu, avec laquelle Dieu nous couvre et dit « Ah, encore, je me suis trompé de route. Ah, bon, il me pardonne. » Dernière raison pour laquelle nous pouvons avoir de la joie en ayant l'endurance dans l'épreuve, le verset 12, chapitre 10, tout simplement, que si tu endures l'épreuve, tu seras heureux. C'est-à-dire que nous savons ce que nous devons faire dans la vie. Nous savons l'appel que Dieu nous donne dans la vie. Nous savons que Dieu nous souhaite qu'on soit saint. Et quand on arrive, et là encore, on est dans cette tension, cette mystère de la vie où Dieu œuvre en nous. Et nous faisons des choses, nous faisons de l'effort. Dieu nous transforme, mais nous avons la responsabilité, dans cette expérience humaine, de faire l'effort, d'être saint. Et donc, si on endure l'épreuve, si on résiste à la tentation, tu seras heureux. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. Et heureux implique souvent béni. Heureux, ça veut dire aussi béni. Savoir que Dieu nous bénit lorsque nous traversons l'épreuve avec endurance est une raison d'être dans la joie. Est-ce que ça vous rend joyeux quand vous expérimentez cela ou quand vous vous efforcez dans ce sens-là? Alors prenons le contraire de tout cela. Sachant que l'épreuve mène à la maturité chrétienne, le cas contraire d'un chrétien mûr est la personne qui est toujours ballottée par ses doutes, une personne irrésolue dans sa foi. Et si on prend notre texte aujourd'hui à l'inverse, s'il n'y a pas de preuve dans notre vie, il n'y a pas non plus la capacité d'endurer. S'il n'y a pas d'épreuve, tu progresses pas. S'il n'y a pas d'épreuve dans la vie, il n'y a pas non plus la capacité d'endurer. Et s'il y a des épreuves, mais que nous ne les affrontons pas avec endurance, nous resterons des chrétiens faibles et immatures. Si on ne répond pas de la bonne manière aux épreuves, on reste dans notre immaturité, on reste dans notre faiblesse. Répondre aux épreuves de la mauvaise manière affaiblit notre foi. Quand on ouvre une porte à quelque chose de mauvais, une habitude, une manière de réagir, et que cela devienne la norme, lorsque nous restons dans ces schémas-là, nous sommes faibles. Nous sommes des chrétiens incomplets. Nous sommes il nous manque de la caractère, la maturité qui vient avec les tempêtes, qui vient avec la traversée des tempêtes, avec confiance en Dieu et obéissance au Seigneur. Que ce soit la tentation de faire du mal, ou que ce soit le fait de désespérer devant une situation, de perdre cet espoir, c'est des signes d'immaturité chrétienne. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il a commencé une œuvre en nous. Quelle est cette œuvre qu'il a commencé? On va voir ce que c'est maintenant. L'ultime résultat des épreuves endurées. Jusque-là, on établit que la vie est faite d'épreuves, qu'on doit répondre aux épreuves avec endurance. On a vu la raison des épreuves et la raison de les aborder avec joie. Maintenant, on va regarder l'ultime résultat des épreuves qu'on endure. Le but ultime des épreuves auxquelles les croyants font face avec de la force morale et la confiance dans le Seigneur n'est pas uniquement la maturité, mais la perfection. Dieu est en train de nous perfectionner, de revenir à l'état qu'il voulait dès le départ. C'est la perfection. Bien sûr, ce n'est pas un but qu'on peut atteindre dans cette vie, mais c'est quelque chose vers lequel nous devons constamment tendre de toute notre force. Et si vous en doutez de cela, Jésus a enseigné cette même chose quand il a dit « Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. » Oui, Dieu nous pardonne de nos péchés. Mais il ne souhaite pas qu'on reste là. Il souhaite que nous soyons parfaits comme lui. Avec notre perfectionnement en tant que croyants, l'œuvre que Dieu a commencée en nous, l'œuvre dont nous sommes participants, Dieu souhaite non seulement qu'on puisse endurer les épreuves, surmonter les tentations, il souhaite aussi et surtout qu'on puisse vaincre. Car vaincre, c'est vivre comme il a envisagé. Et ultimement, Dieu va accomplir cette bonne œuvre qu'il a commencée en nous. Il va nous donner la vie. Et la Bible du Semeur, c'est le dernier verset de mon texte de ce matin. La Bible du Semeur, en verset 12, dit « Heureux l'homme qui tient ferme, cette fois-ci, c'est face à la tentation, car après avoir fait ses épreuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Ça, c'est le but ultime de tout cela. C'est que Dieu va nous redonner. Quand il a créé Adam, il a créé Adam dans ce monde parfait, sans péché, en relation parfaite avec lui. Et Dieu veut nous donner cette vie-là. Il est en train de restaurer à travers Jésus cette relation parfaite, cette vie parfaite. C'est le but ultime des épreuves qui mènent à notre perfectionnement, qui mènent à la maturité, qui mènent ultimement à la vie avec Dieu. Il recevra la couronne du vainqueur, il recevra la vie. Et cette image du couronne du vainqueur n'est pas la couronne d'un roi, c'est la couronne de laurier donnée à ceux qui achèvent leur course. Cette image évoque cette le vainqueur de la course, celui qui a couru, qui a tenu bon jusqu'à la fin de son course. Est-ce que cette but ultime vous motive? Est-ce que vous voulez te retrouver devant Dieu et recevoir ce couronne de laurier, ce couronne de vainqueur? J'ai couru, j'ai fait face aux épreuves, grâce à toi Seigneur, j'ai pu faire face aux épreuves, j'ai pu surmonter la tentation dans ma vie. Les épreuves viennent par degrés variés. Certaines sont plus faciles à subir, comme de la moquerie. Parfois, si on parle de la persécution, les gens se moquent de nous. Ou bien même la mise à l'écart social. Vous êtes différent. Vous vivez pas comme nous dans notre société. Certains sont très faciles, enfin, sont plus difficiles. Les maladies graves, et on a des personnes qui sont dans cette situation d'épreuve par la maladie, et on ne sait pas pourquoi ça dure, et on est obligé de porter ces choses-là. Et ça peut aller jusqu'aux martyrs. Et les martyrs, c'est pas juste l'époque de Jacques, c'est aujourd'hui. Ça peut aller jusqu'aux martyrs, les épreuves. Et vous avez les vôtres. Si je dis que vous faites face aux épreuves ou vous faites face à vos tentations, vous savez déjà ce qu'ils sont. L'Église, à travers le monde, expérimente toutes sortes d'épreuves. Nous ne pouvons pas les éviter, mais nous pouvons prendre la décision de répondre aux épreuves avec la confiance dans la providence de Dieu et avec la détermination de glorifier Dieu au sein de nos difficultés. Jacques encourage une telle persévérance en nous rappelant qu'à travers les épreuves, le but de Dieu est de parfaire notre caractère chrétien. Ce cadeau, nous y aspirons aujourd'hui, mais il sera achevé finalement dans l'éternité. Alors, aujourd'hui, où est-ce que vous avez besoin des hypomonées? Pensez à votre vie. Où est-ce que vous avez besoin de cette endurance, cette détermination dans votre vie de chrétien? Où est-ce que vous avez besoin de hypomonées? Où est-ce que vous avez besoin de mûrir, de grandir? Ce dernier temps, je réfléchis un peu je réfléchissais à ma manière d'être père. J'ai raté des trucs. Et j'avais besoin de grandir. Et on est toujours en train d'arriver à cette maturité. Ça ne s'arrête jamais. Les enfants, à un certain âge, ont une certaine capacité de maturité, mais ils n'ont pas la capacité de maturité des âges suivants. On est tous toujours en train d'arriver à cette maturité. Où aujourd'hui est-ce que vous avez besoin de grandir? Est-ce que vous voulez demander à Dieu de vous aider à cela? J'ai mis juste, en fait, j'ai mis cette note sur ma propre expérience. Pendant que j'étais assis au fond, en fait, je vais pas, dans un premier temps, penser à parler de cela, mais on est tous immatures quelque part. J'ai 67 ans.
On le voit pas.
je suis toujours dans mon immaturité. Dieu est toujours en train d'œuvrer en moi pour m'amener à la maturité. Et l'exemple de la maturité parfaite, c'est son fils qui a traversé cette vie. Et on ne peut pas imaginer comment, sans faute, sans manque de maturité. Ça nous est tellement étranger. Nous avons besoin de grandir. Et je voulais juste vous donner une minute ou deux à réfléchir à cela et de prier silencieusement dans votre cœur. Seigneur, où est-ce que j'ai besoin de grandir? Dans quel domaine est-ce que j'ai besoin de plus d'hypomonée dans ma vie? Quelle épreuve est lourde? Quelle tentation me dérange? Il y a des épreuves sur ta route. Comme le verset 12 l'exprime, ton endurance est une preuve d'amour envers Dieu. Donc accroche-toi. Accroche-toi à Dieu, à ses promesses de t'aider à surmonter les épreuves. Si elles viennent de l'extérieur ou de toi-même, demande-le de l'hypomonée. Dis-lui que tu veux grandir. Dis-lui que tu veux que ta foi soit plus forte en lui. Il est un Père généreux. Il sait répondre avec sa grâce et avec ses dons parfaits.